Le Grand Hebdo, une émission présentée par Bérénice Deville et Paul Meyer sur Radio Territoria.
Et bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Grand Hebdo de Radio Territoria, l'émission qui analyse et décrypte l'actualité des territoires. Pour animer cette émission, je suis accompagnée de Paul Meyer. Bonjour.
Bonjour Bérénice.
Vous allez bien ?
Très bien.
Alors, une émission riche aujourd'hui qui sera consacrée à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et à ses conséquences, notamment en matière d'énergie pour nos territoires. On parlera également de l'élection présidentielle, dont le premier tour se tiendra dans moins de 3 semaines, c'est bientôt, et qui semble être boudée par les Français, puisqu'un risque d'abstention record plane sur cette élection. N'est-ce pas, Paul ?
Oui, tout à fait, Bérénice. On voit bien que la situation est très particulière aujourd'hui. On profitera de cette émission pour essayer de répondre à 2 questions. La première, sommes-nous condamnés à une abstention galopante ? C'est ce qu'on est en train de redouter à l'approche de cette élection présidentielle. Puis deuxième question, qui est aussi liée aux questions de démocratie et de citoyenneté finalement, peut-on se passer du gaz et du pétrole russe ? Une question d'actualité.
Deux invités, deux experts sont avec nous en plateau aujourd'hui. Paul, je vous laisse les présenter.
Oui, on a la chance d'avoir avec nous Antoine Brachet. Antoine Brachet qui est directeur associé de Bluenov, qui est en charge de la participation citoyenne, qui est initiateur du mouvement Bright Mirror et qui va nous en dire quelques mots tout à l'heure. Bonjour Antoine.
Bonjour à vous deux, avec grand plaisir pour en dire quelques mots.
Et Pierre Guillard. Alors, Pierre Guillard qui est un peu le patron du développement des SEM, les SEM ENR. Alors qu'est-ce que c'est qu'une SEM ENR ? C'est une société d'économie mixte pour l'énergie renouvelable. Et donc on va discuter ensemble de la possibilité d'avoir des dispositifs au plus près, localement, justement pour peut-être se passer du gaz et du pétrole russe. Bonjour Pierre.
Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Effectivement, l'idée c'est de chercher ensemble les voies et moyens pour moins dépendre, ça ne sera pas simple, on y reviendra, moins dépendre du gaz qui vient de différents pays et notamment de la Russie, et trouver effectivement comment les territoires, les citoyens peuvent se mobiliser pour continuer d'avoir de l'énergie, parce que même si on essaye d'en économiser au maximum, il restera toujours nécessaire d'en consommer.
Absolument.
Le Grand Hebdo, c'est maintenant sur Radio Territoria.
Le Grand Hebdo sur Radio Territoria.
Alors, on vient de le dire, l'élection présidentielle approche à grands pas. Dans moins de 3 semaines, Paul, donc la campagne a démarré pour certains candidats depuis déjà un long moment. Pour certains, comme notre président depuis peu, il y a eu des rebondissements, évidemment. La question du réchauffement climatique qui se pose, qui est là, qui est très présente. La gestion aussi de l'après-crise du Covid. Et depuis quelques semaines, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, une guerre au cœur de l'Europe. Voilà, le choix du président s'annonce donc crucial. Et pourtant, de plus en plus de Français semblent se désintéresser de ces élections. Comment ça se fait ?
En effet, Bérénice, on est dans une situation assez paradoxale. Rarement, l'actualité a mis devant nos yeux autant de raisons de s'intéresser à la chose collective. Pourtant, ça semble inexorable et la situation n'est pas nouvelle. Eh bien, on s'achemine vers une abstention absolument record pour l'élection présidentielle, mais aussi pour l'élection législative qui doit suivre. Alors, la réponse est devant nous. On n'est plus qu'à 2 semaines du scrutin, mais on va tenter tout de même d'y répondre parce que c'est un mouvement qui vient de loin. On le sait, depuis le mois de septembre, on voit que la participation anticipée par l'ensemble des instituts de sondage stagne comme figée autour des 70% de participation. Et le traditionnel regain d'intérêt que l'on connaît habituellement à l'aube du mois de février, du mois de mars au plus tard, qui voit la participation légèrement augmenter, comme les Français rentraient dans cette élection présidentielle, eh bien ce frémissement, cette évolution du mois de février et mars n'arrive pas et nous restons scotchés finalement à 70%. Invariablement, les projections de participation demeurent à leur niveau les plus bas, jamais mesuré dans l'histoire. Ceux de l'élection à la présidence de la République qui s'annonce aujourd'hui devraient être comparables à ceux du 21 avril 2002.
Oui, alors on parle même d'élections qui pourraient être pires que le 21 avril 2002. On va demander l'avis de nos experts, justement, pour cette élection. Antoine, qu'est-ce que vous avez envie de dire au sujet de cette abstention qui semble grossir?
Ben, c'est un peu le chaos, c'est un peu triste. Enfin, moi, pour moi, le système démocratique, c'est un champ d'expérimentation permanente. Il y a beaucoup de choses qui se passent et pour autant, les citoyens s'en détournent de plus en plus.
Ils se sentent incompris, en fait.
Ils sont un peu incompris. Moi, j'ai le sentiment que on s'achemine, en fait, depuis effectivement assez longtemps vers un modèle où ne reste plus qu'un objet démocratique qui est l'élection présidentielle et pour autant, les gens n'ont plus envie d'y assister. Pourquoi? Peut-être qu'un élément de réponse, ce serait le suivant, c'est de se dire que on est dans le chaos, il y a beaucoup de crises qui s'accumulent les unes aux autres, vous en avez cité certaines, dont la dernière en date, la crise ukrainienne. Dans cette configuration, en règle générale, il faut prendre des décisions rapides. Moi, je pense qu'une bonne décision, c'est pas seulement le fait qu'elle est techniquement bonne, mais c'est aussi le fait qu'elle soit appropriée. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on met en place les mécanismes pour interroger tout le monde, pour se donner ensemble une envie commune, un projet commun. Et on a, je crois, à tort aujourd'hui l'intuition qu'il faut aller extrêmement vite, donc faut procéder de la manière la plus rapide possible, donc sans avoir le temps de s'interroger ensemble. Sans rentrer maintenant dans le détail, mais on pourra y revenir, je suis assez convaincu aujourd'hui qu'on a beaucoup de méthodes et de mécaniques qui existent pour accélérer la démocratie, et j'espère qu'on va être capable de les proposer, ce qui pourra peut-être permettre de réduire l'abstention, peut-être pas en 2022, mais au moins en 2027, on y viendra.
J'aime beaucoup ce mot, accélérer la démocratie. Pierre Guillard, un petit mot sur l'abstention des Français?
Je suis comme mon collègue, elle me désespère parce que je suis par ailleurs un citoyen engagé. Mais je crois qu'effectivement on a cette problématique et l'exemple des médias, parfois bons, parfois moins bons, de la gestion de l'immédiateté versus les temps longs qui sont nécessaires et notamment dans le domaine énergétique. Hein, on ne crée pas une installation énergétique comme ça du jour au lendemain. On est aussi dans ce pays confronté à des logiques de temporalité. On le voit bien par exemple sur les énergies éoliennes, sur parfois le photovoltaïque. Sans parler d'une énergie nucléaire qui pourrait revenir à grands pas. Voilà, c'est pas des sujets qui sont simples à expliquer. Ça nécessite du débat, mais ça nécessite aussi de passer à l'acte. Et je crois que les Français nous peuvent reprocher au gouvernement et parfois même aux entreprises de ne pas aller assez vite lorsque les choix sont faits. Le choix démocratique, c'est une expression. Bah, à partir de moment, il faut le mettre en œuvre. Et la mise en œuvre est parfois complexe.
Un décalage donc entre les Français et les politiques.
Bah oui, tout à fait.
Alors, au-delà de ça, c'est un mouvement qui revient de loin, Bérénice, on le disait tout à l'heure, déjà le 21 avril 2002, qui avait connu un record d'abstention absolument historique. Mais depuis, on voit ces phénomènes se multiplier. L'ensemble des élections locales, que ce soit les régionales, les départementales, les municipales, pensez-y, les dernières élections municipales, qui sont pourtant des émissions reines pour les Français, on sait que dans le cœur des Français, on a le président de la République et le maire, ont vu dans certaines grandes villes, des niveaux d'abstention atteindre les 78%. C'est-à-dire que seuls 22% des citoyens sont venus se déplacer, que ce soit au premier tour, qui s'est fait à quelques jours, c'est vrai, du premier confinement, ou au second tour, qui était, lui, après le mois de juin, bien plus lointain. Un petit peu plus tard, on a vu à peu près les mêmes niveaux de participation pour les départementales et pour les régionales, y compris dans des territoires ruraux qui pourtant se sentent souvent abandonnés et où on a un appel et un besoin de démocratie qui est tout à fait singulier. Un autre signal assez fort finalement de cette situation, ça a été la participation à ce qu'on appelle avec le même terme d'ailleurs, les primaires qui devaient désigner les candidats aux élections présidentielles. Pensez-y, les primaires organisées en 2012, en 2017, pour désigner François Hollande, François Fillon, Benoît Hamon, eh bien ces primaires réunissaient alors entre 2,5 millions et 3 millions de personnes. Aujourd'hui, nous sommes dans des désignations de sympathisants de partis qui rassemblent entre 120 et 180 000 personnes. Là aussi, on a une différence majeure qui n'est plus de degré lorsqu'on est dans des rapports de 1 à 15, de 1 à 20, mais de nature. Et pourtant, on continue un petit peu comme de la persistance rétinienne, à utiliser le terme de primaire. pour ce qui relève être une désignation peut-être plus réduite, qui se respecte et qui doit être respectée. Et donc, les signaux sont nombreux, et pourtant, on a un paradoxe, et Antoine nous en parlera sans doute très bien, lui qui est un spécialiste de la participation, c'est que, pour autant, dans les études qualitatives, les Françaises et les Français n'ont jamais été autant demandeurs de participation concrète, de prise en compte en amont de leur avis dans les débats, dans les stratégies. On en parlera tout à l'heure avec Pierre. On sait qu'il y a parfois des polémiques lorsqu'on veut implanter ici une éolienne, mais lorsqu'on est capable de porter un projet de manière globale, de faire prendre conscience de ces enjeux aux habitants et de les rendre acteurs, eh bien, il y a finalement non seulement de la participation, mais de l'envie, et c'est ce qui est demandé. Alors, comment sortir de ce paradoxe? Eh bien, ce sera un des débats que nous aurons aujourd'hui avec nos invités, Bérénice.
Et alors, justement, on va rentrer dans le vif du sujet avec vous, Antoine Brachet, pour commencer. Vous avez créé un concept, il y a 5 ans, d'un candidat fictif à l'élection présidentielle.
Tout à fait.
Comment ça vous est venu l'idée, hein, parce que c'est assez original comme concept, et puis vous allez nous l'expliquer.
Ben écoutez, c'était il y a 5 ans, ça paraît loin et en même temps si court. C'était les présidentielles 2017, on s'en souvient, ouais. Je pense que tous nos auditeurs s'en souviennent. Et j'avais à l'époque écrit un bout de roman sur un énarque qui devient conseiller du président pour changer la démocratie et la transformer d'une démocratie représentative un peu qui prouve un petit peu ses problèmes par une démocratie purement liquide où tout le monde voterait tout le temps. Puis sur la route, il se rend compte qu'en fait, c'est pas très bien. Comme je suis pas tout très discipliné, j'ai arrêté l'écriture du roman, mais par contre, il s'est passé un truc assez intéressant, c'est qu'on a décidé à quelques amis d'extraire le personnage du roman, qui s'appelait Julien Letailleur, et de le porter comme candidat à la présidentielle. Il est fictif, donc il n'existe pas, et ça permettait de questionner notamment la petite question du rapport de l'ego à l'exercice du pouvoir. Donc, si vous participiez au projet, on avait mis en place un petit algorithme qui permettait de prendre votre visage et de le mettre dans le visage du candidat en disant vous faites partie de cette communauté-là. Qu'est-ce que ça a permis de faire aboutir? Alors, beaucoup de propositions ont été faites par une communauté qui représente à la fin plusieurs milliers de personnes, et puis des sondages qui disaient que si il se présentait, certains pourraient voter pour lui, notamment les jeunes. C'était intéressant. Et il y a 3 paris qui ont abouti et qui sont un petit peu à la qui permettront d'anticiper la suite. Il y a un premier pari qui était vraiment le pari de l'intelligence de tous, c'est de considérer qu'en fait chacun a son mot à dire, pour autant que justement on puisse rendre l'information accessible. Et c'est d'ailleurs le travail des médias, parfois il est plus ou moins bien fait aujourd'hui. Il y avait un pari corollaire qui était le pari de la responsabilité. Si j'ai accès à l'information, si je suis adulte et considéré comme tel, donc comme citoyen, alors je peux m'engager et au-delà de simplement mettre un bulletin de vote, peut-être participer à un processus de prise de cadre d'intention, de prise de décision, etc. Et puis le troisième pari qui est aussi à l'origine du projet, dont on parlera peut-être après, c'est le pari de l'optimisme, mais pas l'optimisme BA, hein, l'optimisme plutôt de la volonté, c'est de se dire, c'est une petite référence à Pascal, quoi, c'était le pari de l'existence de Dieu revisité. Il vaut mieux faire le pari que, et le pari de l'optimisme, c'est de se dire, comment est-ce qu'on se projette vers quelque chose qu'on a envie de réellement créer ensemble, et derrière ça pourra devenir performatif. Derrière, il s'est passé plein de belles aventures avec ce personnage, mais ça remonte un peu et il s'est passé d'autres choses depuis, on y reviendra.
Le nouveau nom d'ailleurs du concept.
Alors le concept que j'ai lancé après j'ai rejoint Bluenov, dont l'enjeu principal consiste à créer de la conversation en donnant la parole à tous. C'est dans des organisations privées, dans des organisations publiques, c'est avec les citoyens. On a effectivement opéré le grand débat national pour en faire l'analyse de tous les cahiers citoyens. On a travaillé sur des questions d'habiter la France de demain, on a travaillé sur les états généraux de la justice, on a travaillé sur des raisons d'être d'entreprise. C'est assez complet. En tout cas, le principe, c'est de considérer que si on se met à plusieurs pour résoudre un problème complexe, on a aujourd'hui des mécaniques, des ingrédients, on va dire, c'est comme si on faisait de la cuisine, des ingrédients méthodologiques et technologiques pour être capable d'apporter des réponses et des solutions ensemble à ces problèmes, plutôt que si on se cantonne à une discussion exclusivement entre experts. Et dans cette organisation dans laquelle je travaille, il y avait un petit truc de mon point de vue qui manquait, c'est que on traitait la parole citoyenne exclusivement sous l'angle rationnel. Et donc j'ai proposé un projet qu'on a appelé Bright Mirror, et dont l'enjeu consistait à faire appel en fait aux imaginaires de tous pour imaginer l'avenir. Et donc on a commencé à faire écrire des micro-fictions positives sur on a fait écrire 3000 histoires sur une trentaine de thèmes à 3000 citoyens depuis 2-3 ans sur des sujets comme l'éducation, la démocratie, l'intelligence artificielle, etc.
Si tu veux, Bérénice, dans la prise de parole publique, aujourd'hui, Bright Mirror représente un vrai rayon de soleil quand même dans quelque chose d'assez sombre. On le disait, on est dans une atmosphère assez lourde, assez pesante, assez chaotique. Et c'est vrai que c'est très très étonnant d'avoir un peu cet ovni qui apparaît et puis qui porte un propos de futur positif, désirable, qui peut faire envie et dans laquelle on a envie de se projeter. C'est vrai que quand on interroge les Français, on a le sentiment qu'ils n'arrivent plus à se projeter que dans du négatif, à se dire que quand on leur demande comment va être votre avenir, alors collectivement, en général, ils sont plutôt négatifs. Individuellement, ils ont un peu plus d'espoir. Et la méthode que vous avez trouvée, elle permet de s'appuyer sur ce début d'espoir pour y construire quelque chose. Et je dois vous le dire, je trouve ça assez impressionnant. Mais vous n'êtes jamais résigné quand vous voyez finalement ce flot de négatif dans le débat public ?
Non, parce que je fais le pari de ne pas l'être, parce que sinon, à la rigueur, je me lève plus le matin. Et pour le coup, je rebondis sur vos propos, dans la manière dont on a créé ce format-là, c'est aussi un chemin de transformation. C'est-à-dire que si vous participiez à un atelier Bright Mirror, il y en a eu un certain nombre.
Il y en a eu plus d'une centaine au moins.
Vous avez trois séquences, en fait. Il y a une séquence où vous êtes spectateur, c'est-à-dire que vous êtes, comme on est habituellement en tant que citoyen, à l'écoute de ce qui nous est proposé. Et là, cette séquence-là, on essaie de vous inspirer en vous donnant le maximum de germes, d'idées possibles par des experts sur un futur souhaitable, qui doivent certainement pas être professoral. C'est, voilà, un ensemble de possibles. On a travaillé typiquement avec François Taddeï du CRI, qui avait été incroyable pour, en 6-7 minutes, donner, je crois, 8000 perspectives possibles d'avenir sur les systèmes éducatifs. Ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième, on devient auteur. Donc, on rejoint un petit groupe de 3-4 personnes pour écrire ensemble une petite fiction qui est donc tout sauf un rapport de consultant. Hein. C'est pas des bullet points. Hein. C'est un héros, une héroïne qui est dans un univers et qui, dans cet univers, évolue, va à une quête, essaye de résoudre un problème. Bref, ça avance avec, évidemment, l'ingrédient d'optimisme. Et puis, la troisième partie qui est importante à mes yeux, c'est aussi devenir acteur, s'approprier son histoire, qui est le premier pas vers la responsabilisation. Et dans les ateliers, ça consiste en pratique à accepter, ça se passe plutôt ça fait penser plutôt à des modèles un peu américains d'accepter de prendre la parole, de s'exposer, de partager avec ceux avec qui on a construit le texte, à l'ensemble des autres ce texte, en prenant la parole sur scène, parfois avec l'aide de coachs théâtraux, etc., pour dire ce texte-là. Et ce chemin de transformation mène donc de se sentir spectateur, donc passif, donc inerte, donc résigné, à acteur, donc proactif. Tiens, je peux en fait participer, je peux disperser un certain nombre d'ingrédients et peut-être que ceux-ci seront suivis d'effets. Je ne vais pas rentrer dans ce détail là maintenant, mais on travaille beaucoup aujourd'hui sur comment est-ce qu'on récolte dans ce trésor que constitue chacune de ces histoires et le trésor cumulé que constituent les plusieurs milliers d'histoires écrites, des ingrédients, des pépites pour être capable de les exploiter, de travailler dessus avec des designers, des ingénieurs, et construire le monde de demain.
Finalement, de tout temps, on a dû réinventer la démocratie pour pouvoir la faire vivre. C'est ce qu'on se dira aussi d'ailleurs sur l'énergie. L'histoire de l'humanité, c'est de se dire qu'on fait évoluer soit la démocratie, soit les énergies et la manière dont on les utilise pour continuer finalement à se développer, à survivre, à vivre mieux et à vivre tous ensemble. C'est finalement ce concept que vous appliquez avec cette forme de rénovation assez incroyable d'une part de la démocratie, qui est la démocratie participative, mais dans ce que vous dites finalement ça va plus loin parce que, si je comprends bien, vous nous expliquez qu'on a les outils en France, c'est un peu cocorico, pour réinventer la démocratie consultative, participative, mais aussi représentative peut-être. D'améliorer la décision, de faire en sorte que d'être plusieurs à décider en coopérant n'est pas synonyme de perte de temps, de dysfonctionnement et de peu d'efficacité, mais au contraire peut être une manière d'agir plus vite et plus juste.
Je suis convaincu de cela. Peut-être deux éléments. Le premier, c'est je crois qu'il y a quelque chose qu'on oublie trop souvent sur le la mécanique démocratique, c'est que il faudrait être capable de la rendre festive et ludique, pas une fois tous les 5 ans se retrouver dans un isoloir un peu gris à se demander ce qu'on va être capable de faire, et que justement il y a une énergie sous-jacente qui est sous-exploitée chez chacun d'entre nous, et qu'un des enjeux justement c'est de réveiller cette énergie et cette envie de participer à un projet commun, et ça je pense que c'est extrêmement important de réfléchir à ces sujets-là, et Bright Mirror c'est un exemple parmi d'autres. Et puis le deuxième élément, c'est qu'effectivement au-delà de la partie humaine, on a sans tomber dans l'esclavage justement à la Black Mirror, mais un appui technologique aujourd'hui qui permet très concrètement d'aller récupérer un certain nombre d'informations qui sont en temps très rapide, qui sont proposées par tous pour les rendre actionnables. À titre d'exemple, j'évoquais Grand Débat National ou les projets qu'on a fait avec les États généraux de la justice. Un des enjeux, c'est d'être capable non seulement de poser des questions, si possible ouvertes, c'est un des gros sujets, c'est pas de poser des questions fermées, mais ouvertes, donc élargir finalement le marché des idées. Vous pensez à quoi? Une fois qu'on a fait ça, c'est de s'interroger et sur la manière dont on est capable d'interpréter ce marché des idées, et de ne pas le consolider sous forme de liste un peu à la Prévert absurde, mais plutôt qu'est-ce qui fait consensus, ce sur quoi on est d'accord, ce qui fait controverse, ce sur quoi il y a vraiment du débat, et dans les projets sur lesquels on a travaillé, je pense par exemple à un autre exemple qui habitait la France de demain, c'est très intéressant de se dire, on va analyser tout ce que les citoyens ont dit jusqu'à présent. Il y a eu une quinzaine de consultations privées ou publiques qui ont été faites. On a identifié 4 controverses clés, j'en cite une, densification ou étalement urbain. On a posé des questions, s'inspirant notamment des travaux de Bruno Latour, sur les questions de renoncement, parce que c'est pas simple. En fait, si je veux aller dans une direction, peut-être que je dois renoncer à autre chose. Comment est-ce qu'on fait avancer la mécanique pour identifier comment est-ce qu'on dépasse ces controverses-là? Et si on va dans cette direction, et si j'étais, ce qui n'est pas le cas, un décideur politique, c'est incroyable la force de frappe que ça peut donner. Sur le champ de consensus, c'est une force d'envie partagée, on y va. Sur les points de controverse, c'est là où éventuellement il faut créer du débat, positionner le débat, c'est vrai aussi pour les médias, et se poser la question de comment est-ce qu'ensemble on est capable de dépasser ces éléments-là. Et puis ensuite, il y a des éléments, je termine là-dessus, qui sont des éléments en creux, qui sont non cités. Là, c'est intéressant. Typiquement, on n'a pas vu beaucoup d'informations ou textes écrits ou je ne sais sur l'impact de l'intelligence artificielle sur le rapport au travail. Là, peut-être qu'il y a de la pédagogie à faire. Donc ma posture en tant que média, en tant que dirigeant, etc., peut varier en fonction de la manière dont un sujet est perçu à un instant T par l'ensemble des citoyens ou l'ensemble d'un groupe qui est adressé. Derrière, je peux prendre des décisions.
Bien sûr. Alors, j'aimerais rebondir là-dessus parce que... Pour bien comprendre, moi j'ai le sentiment que vous remplacez aussi un espace, je ne sais pas si vous oserez le dire, mais c'est vrai que les grands partis politiques qui concourent au fonctionnement de la démocratie en France, au début du siècle, ils étaient en adhérents, ils étaient en centaines et centaines de milliers, hein, les grands partis gaullistes, communistes, on était en plusieurs centaines de milliers d'adhérents, et il y avait un vrai rôle de captation, de transmission, mais aussi d'éducation populaire et de formation, et qui permettait au plus grand nombre finalement... via leurs médias, leurs moyens de communication, leurs réunions, leurs meetings, eh bien de transmettre un savoir, mais aussi d'associer les gens au changement. Tout ça, on l'a vu, c'est délité tout au long du XXe siècle, là aussi. Les partis aujourd'hui représentent finalement très peu d'adhérents. Ils ont pendant un moment encore gardé une élite qui leur permettait de penser les choses et d'imaginer comment organiser le pouvoir et sa gestion. Finalement, aujourd'hui, vous rebouclez un petit peu les choses et vous êtes un peu, pour le dire, c'est peut-être de la provocation, mais l'éducation populaire 2.0, plus d'un siècle après les grands mouvements des grands partis qui formaient et qui diffusaient de l'information et qui apprenaient, qui accoutumaient finalement le peuple, la population au pouvoir. On peut le dire comme ça ?
On peut le dire comme ça. Je pense qu'il y a deux choses dans ce que vous êtes en train de dire. Il y a l'aspect méthodologique, où effectivement, par rapport au mode de fonctionnement classique des partis, je pense qu'on a appris sur les 15 dernières années, et notamment en France, un nombre incroyable de choses qui sont, encore une fois, qu'on peut mettre en pratique sur la manière dont on crée de l'adhésion, de la manière dont on crée du débat, dans la manière dont on arrive à dépasser des points de contradiction. Tout ça, on sait faire, en fait, ça existe. En fait, on sait faire, et en temps court. Et il y a un autre élément qui est effectivement sur les sujets de fond, parce que le principe d'un parti initial, c'est on se place soit du point point de vue de l'offre ou de la demande d'idées, mais grosso modo, ça consiste à faire converger des idées pour avoir un socle commun. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on n'a jamais eu autant de possibilités d'être capable, pour le coup, d'un point de vue, en se plaçant du côté de la demande, de comprendre un petit peu ce qui émerge comme corpus intellectuel au sein d'une population donnée, d'arriver à la consolider et être capable ensuite de faire des propositions pour répondre justement à ces différents sujets, que ce soit sous forme de pédagogie, sous forme de prise de décision, etc. Et je rajoute un dernier élément, c'est que non seulement c'est possible, mais en plus, ça peut se comprendre comme étant une base de données qui évolue dans le temps. Entre la base de données hallucinante de millions d'idées citoyens qui avaient lieu pendant le grand débat national et aujourd'hui, on peut mettre à jour cette base de données et on voit l'évolution en fait de ce que souhaite, de ce que pense une population, et on est capable non pas à chaque fois de se dire tiens ben on va réécouter les gens et leur demander ce qui se passe, mais plutôt de se dire ok, là on va mettre les coups de projecteur à tel endroit, là tiens ça vaut le coup d'insister, là il y a un sujet par rapport à ce qui se passe dans le monde, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut avancer. Donc il y a plein de méthodes pour maintenir à jour cette base de données de notre imaginaire collectif. Et là-dessus, peut-être un dernier mot, et qui me semble très important de citer, c'est de considérer que ce qui est le plus important, en fait, c'est de l'ordre du témoignage. Dans ce que vous disiez au début, dans votre introduction, on parlait de déconnexion, ce qui est complexe, c'est de travailler en chambre de manière purement théorique, en se disant, voilà ce qu'on va appliquer pour résoudre un certain nombre de problèmes. Ce qui est très intéressant, c'est quand on inverse la perspective, que sur le terrain, on est capable de collecter un certain nombre de témoignages, soit imaginatifs, soit ancrés dans le réel. Un peu les travaux de Rosanvallon, finalement, je pense qu'on pourra donner la référence. C'est très important, son dernier ouvrage à ce sujet. Et la collecte de ces témoignages, c'est celle qui est ancrée dans la réalité et c'est celle qui permet de fabriquer le réel. Si on se coupe de ces témoignages-là, on est perdu. Si on fait que de la théorie, on est perdu. Il faut, en pratique, être au contact de ces témoignages pour être capable de s'inventer notre futur commun.
Et justement, on va écouter un épisode de ce beau projet, un beau projet qui s'appelle Bright Mirror, inventer un imaginaire collectif. Alors, les épisodes, on peut les retrouver sur YouTube.
Oui, alors pas ils que. Sont non pas que, ils sont sur toutes les plateformes. De, là, on vient de lancer ce sujet. En fait, on s'est inspiré d'un autre podcast qui s'appelle Oli. On voulait faire un format court, et en fait, c'est Levez-vous du bon pied avec un épisode Bright Mirror écrit par un citoyen pas loin de chez vous. On a testé le format en créant 8 qui sont accessibles sur toutes les plateformes de podcast classiques plus YouTube visiblement, j'avais même déjà oublié. Bon, c'est très bien. Et en tout cas, vous pourrez, j'espère que vous prendrez plaisir à leur écoute.
Et bien justement, on va écouter le premier épisode.
Quoi de mieux que de se lever du bon pied, vous êtes d'accord? Alors ce premier épisode que nous vous proposons du podcast Bright Mirror est fait pour vous. Prenez 3 minutes le matin et laissez-vous bercer par une histoire d'un avenir positif, écrit par un citoyen qui habite peut-être à côté de chez vous, ou peut-être à l'autre bout du monde. Ce citoyen a pris le temps d'imaginer une micro-nouvelle autour d'une thématique qui lui tient particulièrement à cœur. Ce peut être la démocratie, l'éducation, l'économie circulaire, l'intelligence artificielle. Il a pris une heure de son temps avec d'autres citoyens pour écrire l'histoire que nous allons maintenant vous conter. Plus de 2000 histoires ont déjà été écrites. Écoutez celle-ci et peut-être aurez-vous envie d'écrire la suivante. Fermez les yeux, profitez.
Il était une fois les villes et territoires de demain. Il était une fois Alvéole.
Dans un avenir pas si lointain, je sors de chez moi et comme tous les matins, je vais prendre la navette. Une belle journée qui s'annonce. Quelques minutes de marche avant la station, j'aperçois les jumeaux Glotzky en train de se gaver de fraises. C'est la saison en même temps. Tiens, il y a un homme que j'ai jamais vu, qui a l'air bougon. On dirait même qu'il tourne en rond. Pourtant, c'est l'heure de pointe, le meilleur moment. Il ronchonne dans sa barbe.
Pas possible, déjà 10 minutes. Et toujours rien. Y a un problème sur la ligne. C'est bien ma veine. Excusez-moi, y a un problème? C'est bien là qu'on attend le bus.
Bonjour. Oui, c'est bien là. C'est la première fois que vous empruntez la navette?
La navette? Le bus, quoi. Ça fait 10 minutes que je suis là et il n'y a pas de temps d'attente indiqué.
10 minutes. Et il n'y a rien qui vous plaît.
Comment ça, qui me plaît?
Ah, vous n'êtes pas d'ici, vous. Vous n'avez jamais utilisé les alvéoles?
Les quoi?
Les alvéoles. L'espace qui vous entoure. Regardez. Par exemple, ici, vous pouvez cueillir des fruits ou participer à leur culture. Les outils sont là, en libre accès. Si vous ne vous sentez pas la main verte, vous pouvez toujours commencer un roman. La bibliothèque ouverte est juste derrière vous.
Ah ok, je comprends mieux. Et les gens en groupe, ils font quoi là-bas?
Bah, ils attendent la navette.
Ah, ils n'ont pas vraiment l'air d'attendre. Ils ont tous la tête en bas.
Oui, ils font du yoga. Pourquoi pas? La navette n'est pas encore là. C'est l'espace tapis, conçu pour ça. Je vous conseille d'aller tâter le revêtement. C'est un plaisir.
Mais la navette, elle ne passe jamais du coup?
Ouais, de toute façon, il n'y a pas de voiture. Donc les trajets sont hyper rapides. Détendez-vous.
Je comprends pas vraiment. C'est un abribus ou pas?
Ouais, entre autres. C'est surtout un espace pour les habitants et les gens de passage. On y cultive, on y fait du sport, on échange entre nous, on s'y détend. Vous n'aviez pas repéré les hamacs derrière? Ah, bah, voici la navette que vous attendiez tant.
Ah bah tiens, la navette. J'ai rien pu tester. Bon, je vais prendre la prochaine, finalement.
Le Grand Hebdo, sur Radio Territoria.
De retour sur le plateau du Grand Hebdo de Radio Territoria, l'émission qui analyse et décrypte les actualités des territoires, de nos territoires, toujours avec Paul Meyer et avec nos invités, Antoine Brachet, directeur associé de Blue Neuve, et Pierre Guillard, directeur des relations institutionnelles chez Engie Solutions. Alors justement, on va parler des énergies en France. On en parle énormément en ce moment, hein, voilà, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le gouvernement a présenté un plan de résilience, justement, bah, il y a pile une semaine, mercredi dernier. Alors, comment faire pour éviter, pour s'affranchir, justement, massivement des énergies russes? Paul.
Absolument. Peut-on se passer du pétrole et du gaz russe en particulier et en général d'ailleurs dans notre planète? Parce que plus que le retour du tragique dans l'histoire, la violence brute, crue, proche, palpable de cette guerre sur notre continent rappelle finalement à nos sociétés modernes occidentales qu'elles n'ont jamais fini d'écrire l'histoire et que l'humanité n'a de cesse de remettre l'ouvrage sur le métier des grands défis qui ont toujours été les siens. En quelques mois, nous avons été en effet touchés tour à tour, et à des degrés différents bien sûr, par des séismes qui ébranlent des certitudes, des évidences, pourtant acquises depuis des décennies par nos sociétés occidentales modernes, comme l'abondance d'énergie, de démocratie, notre préservation presque surnaturelle, à des crises majeures comme les guerres ou les pandémies. À l'heure où le président Biden décolle des USA pour venir enchaîner 3 sommets majeurs en Europe, sommet de l'OTAN, sommet du G7, sommet de l'Union européenne, l'un des sujets majeurs posés à nouveau sur l'établi et qui semble désormais revenir comme une ancienne, n'est autre que celle de la capacité des Occidentaux à diminuer leur addictive dépendance aux énergies fossiles et singulièrement au pétrole et au gaz russe en cette période de crise. Il est donc souhaitable de rappeler cette évidence. Aussi loin que se plonge la mémoire de l'humanité, la question de la disponibilité de l'usage de l'énergie a toujours eu une influence majeure, voire déterminante, dans les enjeux de guerre, de paix et de démocratie. Il y a à peine plus de 200 ans, il y a à peine plus de 200 ans, la France venait tout juste de faire sa révolution. L'énergie était alors, hormis quelques moulins à vent, quelques moulins à eau, quelques bateaux ou quelques animaux de trait, l'énergie était celle de la force, des bras et des jambes des travailleurs au mieux, ou de l'esclavage au pire. L'humanité était à l'aube alors de connaître une révolution absolue, avec la découverte d'une énergie abondante, facile à utiliser, à transporter, au rendement impressionnant qui allait permettre à des millions de personnes de sortir de la pauvreté. Un boom extraordinaire de la recherche, de la science, de la médecine et des découvertes prodigieuses. Après des décennies d'euphorie légitime, les premières questions de dépendance vinrent se poser dès les années 70, avec pour conséquence la fin des Trente Glorieuses et l'apparition du chômage de masse. À cette perte de souveraineté et de déclassement économique allait bientôt s'ajouter la découverte funeste d'un phénomène remettant en cause jusqu'à la survie même de l'humanité, le réchauffement climatique. Souveraineté, compétitivité, survie et environnement, les lourdes motivations invitant à se tourner vers d'autres sources d'énergie ne datent donc pas d'hier. Et notre torpeur face aux changements nécessaires ne trouvait plus de justification depuis longtemps, si ce n'est par l'invocation d'un manque d'alternatives dû d'abord à notre faiblesse à les développer réellement, et à un déni global, remarquablement illustré récemment d'ailleurs dans le désormais célèbre film « Don't Look Up ». Mais un troisième phénomène majeur finit de nous obliger à une transition rapide. Nous n'aurons tout simplement bientôt plus de pétrole et de gaz sur cette planète. Cette alarme, jadis sonnée par d'inquiétants alarmistes, est aujourd'hui une thèse unanimement admise par l'ensemble des experts, et y compris l'AIEA ou des entreprises comme BP, qui sont la source des chiffres que je vais vous donner à présent. Car si les réserves théoriques exploitables semblent quasi infinies, selon les chiffres de l'AIE, 6 000 milliards de barils de pétrole, 4 000 milliards de barils de gaz, pour une consommation annuelle d'une quarantaine de milliards de barils, ce qui, avec une petite division, nous donnerait à peu près 175 ans de réserve devant nous. Les stocks réellement extractibles, eux, diminuent à peau de chagrin. En réalité, le pic pétrolier des ressources rentables à exploiter a déjà été dépassé il y a plus de 10 ans. C'était en 2010. En effet, depuis 2010, les nappes de pétrole conventionnelles, faciles et peu coûteuses à exploiter, se réduisent et la croissance de la production mondiale ne se fait guère plus que sur l'exploitation de filons très coûteux à exploiter, comme les gaz de schiste aux États-Unis ou les sables bitumineux au Canada. Coûteux et sale, car ce sont pour l'un comme pour l'autre des méthodes d'extraction extrêmement polluantes. L'AIE et même BP s'accordaient dans deux études différentes, en 2018 et 2019, sur le fait qu'une contraction du marché des carburants, entendez une pénurie, pourrait avoir lieu à l'horizon 2030 avec moins de 1600 milliards de barils maximum à un prix d'extraction toujours plus élevé. Et pour le gaz, me direz-vous? Eh bien, pour le gaz, la situation est à peu près la même en termes de calendrier et de perspectives de pénurie, de difficultés d'approvisionnement ou de contraction de marché. Tout au moins, on l'associe. À cette situation, les travailleurs et les chercheurs du Shift Project et l'équipe de Jean-Marc Jancovici nous alertent sur un élément qui viendrait ajouter une difficulté particulière à la nature même, due à la nature même du gaz, qui fait que cette énergie est particulièrement chère à transporter. En conséquence, les crises liées à d'éventuelles pénuries pourraient également revêtir un caractère régional. Pénurie à un horizon proche, donc, autonomie et besoin de souveraineté, bien sûr, réchauffement climatique en plus. Jamais nous n'avons eu autant de raisons de changer et de tourner la page de ces énergies fossiles. J'en viens là à ma conclusion, c'est que finalement cette terrible crise et cette guerre peut donc bien finalement être l'occasion d'un sursaut salutaire. Après près de 40 ans d'hésitation, de déni parfois, mais aussi d'acquisition de connaissances et de découvertes, nous permettant de tourner la page et de trouver des solutions.
Alors, c'est un beau tableau noir, est-ce qu'il y a quand même des solutions ?
Alors oui, effectivement, il y a quand même quelques solutions, et c'est pour ça que nous avons notamment invité Pierre Guillard pour en parler, parce que les solutions sont nombreuses. Bien sûr, il y a les grands plans, hein, désormais connus, lancés au niveau national et européen, un Airbus des batteries, le nouveau plan pour le nucléaire, mais aussi la rénovation énergétique et les économies d'énergie, bien sûr. Mais aujourd'hui, on voulait vous parler, et ça fait particulièrement sens à Radio Territoria, de solutions très locales qui nous permettent d'envisager la production locale d'énergie, et c'est pour ça que nous sommes avec Pierre Guillard, parce que aujourd'hui le débat en France sur la production d'énergie, il se limite à peu près aux éoliennes et à se dire finalement est-ce que lorsqu'on met une éolienne dans un champ, ça fait une polémique, c'est pas très beau. On s'est dit qu'au regard de ce qu'était l'importance de l'énergie dans l'histoire de l'humanité, ce débat méritait d'être pris avec un peu plus de hauteur. Et c'est pour ça que nous voulions parler d'un projet que je trouve incroyable, la volonté de développer des SEM, donc des sociétés d'économie mixte, dédiée aux énergies renouvelables et à leur production sur les territoires. Et c'est pour cela que nous allons en parler avec Pierre Guillard d'Engie Solutions.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, vous avez dressé, Paul, un tableau à la fois assez noir et puis qui donne des perspectives pour essayer de rebondir. D'abord, je voulais rappeler quand même que on est en France et en France, il y a une particularité dans le domaine de l'énergie. Vous en avez un peu parlé, c'est le nucléaire. Le nucléaire qui a à la fois permis d'être relativement indépendant par rapport à d'autres pays, notamment des pays européens, mais qui a aussi dans l'esprit français finalement limité l'enjeu de l'intérêt de parler d'énergie, parce que on avait ces installations importantes qui venaient ou qui étaient installées un peu partout sur le territoire, mais relativement limitées, qui apportaient facilement, on va dire, et à un prix relativement accessible, l'énergie électrique aux uns et aux autres. Sauf que l'énergie, ce n'est pas que l'électricité. Vous avez parlé de mobilité. Jusqu'à maintenant, même si les véhicules électriques augmentent dans le parc français, on était sur des véhicules qui utilisent du fioul, du gaz de plus en plus, mais du fioul historiquement. Et moi qui suis un ingénieur climaticien d'origine et de formation, le chauffage passait principalement par l'énergie thermique, les chaudières que vous connaissez à la fois chez les particuliers et dans les immeubles collectifs, effectivement qui étaient alimentées historiquement par le charbon, heureusement on en est à peu près en France revenu, de le fioul et depuis de nombreuses années maintenant, le gaz plus particulièrement. Donc l'enjeu de la chaleur et Engie Solutions, j'ai la chance de travailler dans cette belle BU d'Engie hein, qui est à la recherche permanente de solutions pour à la fois diminuer, et là aussi c'est important, hein, ne nous faisons pas de leurre les uns et les autres, il faut d'abord être efficace en termes énergétiques, c'est-à-dire en minimiser la consommation dont on a besoin pour faire ce dont on a envie, se déplacer, se chauffer, se parler les uns et les autres, effectivement. Mais voilà, l'efficacité d'un côté, donc ça c'est la rénovation énergétique, vous en avez parlé, c'est la modification de la motorisation sur les véhicules. Et puis effectivement, l'autre solution, c'est de chercher des énergies locales et renouvelables sur l'ensemble des territoires français. Alors ça perturbe un peu l'image qu'on avait dans l'histoire, parce qu'il y avait EDF et GDF, que je connais un peu mieux historiquement. Aujourd'hui, non. C'est Engie, EDF, Total, d'autres opérateurs étrangers qui livrent chez les uns et les autres, par le biais de réseaux ou de câbles électriques, l'énergie chez les uns et les autres. Mais clairement, la nécessité de produire restera une réalité, et si possible, effectivement, comment on peut trouver des énergies disponibles sur les territoires? Il y en a partout, de l'énergie disponible. On lève la tête, le soleil, heureusement, rayonne sur tout le monde. Donc le soleil est une énergie disponible sur l'ensemble des territoires français. La biomasse, hein, les forêts, alors là aussi, ne nous trompons pas de débat. Il ne s'agit pas pour moi d'aller couper les arbres chez les uns et chez les autres. Il s'agit de récupérer notamment le bois d'élagage qui est utilisé pour effectivement alimenter les chaudières. Alors souvent les Français, ils connaissent, hein, ils ont la cheminée ou la petite chaudière à l'intérieur de leur résidence secondaire. Non, là, c'est pas de ça dont il s'agit. C'est de plaquettes forestières préparées, séchées, qui vont alimenter des chaufferies biomasse, comme on les appelle. Ces chaufferies sont d'une efficacité bien plus intéressante que celle d'un foyer ou d'une cheminée dans la maison. Et elles ont des obligations réglementaires pour être filtrées, pour éviter que des émissions particulières puissent effectivement perturber la vie des uns et des autres. Et pour créer, par exemple, ce genre de chaufferie collective qui va alimenter un bassin de vie, à Strasbourg.
C'est combien de personnes, par exemple?
Alors, des exemples, mais... Tout à fait. Bah, ça peut être un petit village qui a une école, une mairie et quelques bâtiments, notamment des logements sociaux, par exemple, un petit immeuble de logements sociaux. Ça peut faire l'objet d'un réseau de chaleur, hein, pris par l'initiative d'une collectivité. Et ça va jusque dans les grandes villes. On est à Paris aujourd'hui. Ouais. Il y a un petit réseau, là, qui fait plusieurs centaines de kilomètres, qui s'appelle la CPCU, Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain, qui alimente plus de 150 000 logements, je crois, et équivalent logement, parce qu'il y a aussi des immeubles à l'intérieur. Mais voilà, c'est un réseau de chaleur aussi qui utilise de la chaleur provenant des usines d'incinération, de la biomasse aujourd'hui, des cogénérations qui vont sans doute muter demain, de la géothermie dès maintenant. Donc, je reviens sur les différentes énergies disponibles dans les territoires. J'ai parlé du soleil, j'ai parlé de la biomasse.
Alors juste, quand vous dites disponibles, elles sont disponibles, mais est-ce qu'elles sont facilement utilisables?
Alors, c'est une bonne question. L'idée, c'est qu'il faut toujours, quelque part, être compétitif vis-à-vis des Français et des utilisateurs, qu'ils soient des opérateurs économiques, je pense aux industriels, qu'ils soient des immeubles de bureaux comme ici, ou bien sûr des résidences collectives d'habitation des uns et des autres. Donc on a eu souvent la problématique, parce que comme je le disais au départ, l'énergie en France, notamment l'électrique, mais le fioul et le gaz, c'était aussi vrai, n'était pas très cher. Donc, et était en tout cas moins cher qu'utiliser des énergies renouvelables dont on n'avait pas beaucoup de technologies disponibles. Donc, qui dit peu de technologies dit relativement cher chacune d'entre elles. Et donc, la compétitivité de ces énergies locales est venue un peu des crises. Paul a parlé des crises de 1974. Il y a eu d'autres crises, notamment en 2008, avec une envolée du prix du gaz. Mais malheureusement, la sinusoïde du fioul et du gaz est une réalité. C'est-à-dire qu'on augmente pendant 2 ans, puis hop, on rechute pour des raisons géoclimatiques, parce qu'il a fait relativement moins froid qu'avant, ou pour des raisons géopolitiques qui font qu'à un moment, l'Iran redélivre un certain nombre de masses de gaz et de nylon. Aujourd'hui, on est effectivement, compte tenu de ce qui se passe, sur des énergies qui sont localement compétitives. Et donc après, l'idée, c'est de les mettre en œuvre. Et c'est là qu'on va effectivement chercher les voies et moyens contractuels, techniques, citoyens, pour mobiliser l'ensemble des acteurs, pour essayer de créer cette production d'énergie renouvelable. Et ça peut être de l'énergie électrique via les panneaux photovoltaïques, et ça peut être de l'énergie thermique ou de l'énergie pour la mobilité. L'hydrogène, par exemple, c'est un gaz qui se fait avec effectivement de l'électricité locale, si possible produite par des panneaux photovoltaïques, et de l'eau pour faire effectivement, par l'électrolyse de l'eau, de l'hydrogène disponible pour la mobilité.
Et moi, j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur la forme, parce que ce qui est incroyable, et en tout cas qui me semble très intéressant, c'est cette logique, évidemment, de localiser au plus près, et donc d'avoir un vrai diagnostic territorial, mais aussi de rendre les bénéfices sur le territoire, parce que l'énergie jusqu'ici, et c'est là où il y a un lien, à mon avis, très fort avec les questions démocratiques, l'énergie, finalement, c'était l'arme stratégique nationale. Et donc l'État arrivait et disait, écoutez, vous êtes gentil, mais on va avoir besoin de mettre une centrale nucléaire, c'est l'intérêt supérieur de la nation, ça vous plaît peut-être pas, mais c'est comme ça, on en a besoin, et c'est la souveraineté, et c'est la compétitivité économique, et c'est l'intérêt général et supérieur, donc la démocratie. On a vu qu'avec des éléments moins inquiétant peut-être quand même que des centrales nucléaires, c'est-à-dire je parlais tout à l'heure des éoliennes, ça a pu créer des crispations incroyables et un blocage terrible, parce que finalement, on avait l'impression qu'il y avait une appropriation, une privatisation de l'espace, des nuisances qui pourraient en découler, qu'elles soient visuelles ou que ce soit le risque, si on parlait d'une centrale nucléaire par exemple, et les citoyens ne voient pas leur place dans ce schéma-là. Et autant on utilise à chaque moment, et c'est pour ça que j'ai fait une chronique un peu sur l'importance de l'énergie, parce que on a oublié, on l'a eu en abondance, on a oublié à quel point c'était stratégique. Et je pense qu'il est important d'avoir à la fois une pédagogie sur l'indispensable besoin d'énergie au quotidien pour chacun d'entre nous, mais aussi sur comment on la produit, comment on la partage. Et pour revenir sur la question de Bérénice, quel territoire peut utiliser quelle énergie? On sait qu'on n'aura pas forcément le même ensoleillement dans telle ou telle région de France, qu'on n'a pas les mêmes capacités en géothermie peut-être, ou des réseaux préexistants. Et je crois que là où vous alliez quelque chose d'intéressant dans ces logiques de société d'économie mixte pour les énergies renouvelables sur les territoires, c'est de dire diagnostic technique, compétences, innovation, mais aussi démarche participative et cohérence économique avec le territoire. C'est bien ça ?
Oui, je crois que ce qui était important, et on doit rappeler aussi, rendre à César ce qui est à César, c'est la loi de transition énergétique et croissance verte, la LTECV de Ségolène Royal en 2016, qui a initié un peu, parce que elle a senti, comme d'autres, l'urgence de passer à l'acte. Et effectivement, les grands équipements dont vous parlez, et on en parlait un peu tout à l'heure, les réglementations, la nécessité de la concertation, le grand débat qui est nécessaire pour ces grandes installations, fait que, et on le voit sur les éoliennes, notamment maritimes, ce que vous décidez en 2010 n'est toujours pas mis en œuvre en 2022. à un moment où il faut accélérer la transition énergétique, quelque part, au-delà de la nécessité de la concertation, on va dans le mur.
Et pourquoi alors
bah parce que le temps, les débats, les recours, le fait que effectivement, bah, le gaz et voire l'électricité avait baissé de façon conjoncturelle, donc il y a un effet, mécanique sur la compétitivité qui se joue si on prend trop de retard, pénalise ce genre de choses. Donc là, les énergies locales disponibles sur les territoires. Et ces logiques contractuelles de mise en œuvre font qu'on peut aller assez vite. Hein, et donc, pour rebondir, Paul, sur l'intervention, c'est non seulement une SEM disponible, on peut lancer des SEM pour faire ça, mais c'est même des SAS-ENR, c'est-à-dire que l'opérateur privé et la collectivité locale, et quand je dis la collectivité locale, c'est à la fois l'entité politique locale, mais qui peut elle-même fédérer une association okay. de citoyens, par exemple.
D'accord, d'usagers.
Un bailleur social. Vous voyez ? Donc, pour créer ensemble une unité de production d'énergie renouvelable, et là, c'est un exemple concret qu'on vient de vivre à Vélizy, région parisienne, où il y avait effectivement un réseau de chaleur existant avec des installations. On était délégataire historique du réseau, mais à un moment, il y a eu un débat sur une cogénération qu'il fallait finir de faire fonctionner parce que, là, on va pas rentrer dans le détail, mais grosso modo, la cogénération n'est plus accessible aujourd'hui pour les nouveaux projets. Donc la collectivité nous a dit, eh bien, il y a peut-être une solution. Il semblerait qu'on ait de la réserve géothermique. On l'a, nous, cherché. On a fait les sondages. On a fait l'effort, le risque industriel. On est allé regarder. Effectivement, il y a de la disponibilité. Et donc, on a proposé de faire une SAS-ENR pour produire la géothermie qui va suppléer à l'arrêt prochain de la cogénération. Et là, clairement, ça a mis, 9 mois pour se mettre en œuvre. Avec une extraction souterraine, on va chercher de l'eau chaude à 2000 mètres sous terre. Donc c'est un gros investissement, c'est un risque non négligeable. Ça va marcher, là ça vient d'être lancé. Et la collectivité, son apport, et elle participera bien sûr au conseil d'administration, son apport ça a été le foncier. Donc y compris on n'a pas eu à demander quelque part un effort financier à la collectivité. En revanche, il y a un contrat de gouvernance clair, monsieur le maire est administrateur avec des rôles non négligeables, donc il y a une transparence dans le fonctionnement et effectivement, charge à lui et à nous d'aller chercher des citoyens pour la montrer aussi que c'est pas simplement la collectivité puissance politique qui décide. C'est bien un effet de territoire. Et pour rebondir là aussi sur ce que vous disiez sur l'intérêt territorial, c'est que ça pérennise, ça fait faire des travaux, les entreprises locales sont intéressées. On a, nous, un certain nombre de salariés qui font fonctionner cette installation, qui habitent généralement là aussi sur le territoire, donc ils sont des consommateurs, citoyens, acteurs. Et donc, voilà, c'est un écosystème qui se crée sur une problématique énergétique qui reste indispensable, comme vous le rappeliez.
Antoine Brachet, vous vouliez réagir?
Ah oui, en fait, c'est passionnant ce que vous dites. Et effectivement, ça, je pense que ça coche pas mal de cases auxquelles je crois beaucoup, notamment sur les questions du passage à l'action. Je songeais en vous écoutant à ces mécaniques sur lesquelles on est en train de travailler, qui sont en fait le principe de collège multipartie prenante. L'idée, c'est effectivement de se dire. Donc, on parlait tout à l'heure d'accélération de la démocratie. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus intéressant d'essayer de mettre en évidence justement des points de vue comparés d'un certain nombre de parties prenantes qui peuvent être les collectivités, les citoyens. Les opérateurs d'un système donné pour justement arriver à prendre en compte ce que chacun souhaite et avoir des mécaniques très rapides justement d'appropriation collective en se disant quel objet concret peut en sortir. Et donc en vous écoutant, je me disais qu'effectivement on est en recherche principale d'objets concrets activables qui permettent de passer à l'action, parce que si ça reste dans le domaine des idées, à un moment c'est gentil mais ça suffit pas. Les SEM que vous évoquez sont sans doute un excellent objet de sortie, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas c'est une dynamique sur laquelle on peut faire avancer les choses assez rapidement.
On est entièrement d'accord et c'est un des sujets aujourd'hui qui nous interpelle, parce que dans, je reviens avec mes histoires d'éoliennes, hein, excusez-moi, parce que pour moi elle est caricaturale. Aujourd'hui on a une déconnexion totale entre, encore une fois, la consommation et la production. On a éloigné et distancié finalement ces éléments, et donc là ça nous permet de repenser les choses et de les repenser concrètement. Mais alors du coup on est sûr, pour être concret avec nos auditeurs un petit peu, hein. Donc on parle d'éoliennes, on peut parler d'éoliennes sous-marines quand il y a, voilà, on peut parler de moulins à eau, je pense par exemple dans des villes où il y a des canaux, où il y a des barrages, des passes à poissons, etc. Ça peut faire partie des éléments producteurs d'électricité. On pense aux panneaux photovoltaïques, aux panneaux solaires qui réchauffent de l'eau également, c'est ça, aux pompes à chaleur, à la géothermie, voilà, c'est ce genre de d'initiatives, j'en oublie sans doute, mais on voit là qu'on a déjà une palette de diversité qu'on peut mettre en œuvre à des degrés différents sur les territoires et où là aussi l'intelligence collective qu'on va y trouver va permettre d'affiner au mieux à la fois la consommation mais la forme de production qui permettra d'être le mieux acceptée parce que bah dire qu'on fait pas d'omelette sans casser des œufs, mais c'est ce que je rappelais tout à l'heure. L'énergie, ça a été l'esclavagisme, ça a été beaucoup de force de travail et de souffrance pour l'humanité. Être capable de la remplacer, ça n'est pas mince. Donc aujourd'hui, on est à peu près à combien de sociétés d'économie mixte de ce type qui se développent en France ?
Alors, il y a d'autres exemples de sociétés d'économie mixte. Je pense à l'hydrogène, on en parlait tout à l'heure. On a fait avec la région Occitanie et la région Auvergne-Rhône-Alpes des structures partenariales entre une OSEM-ENR qu'avaient créé ces deux régions, hein, l'AREC pour l'Occitanie et puis, je me souviens plus, l'ALE enfin, de mémoire pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et cette structure émanation du conseil régional, s'est marié avec Engie, hein, on reste d'ailleurs l'actionnaire majoritaire parce que là aussi la prise de risque sera transférée à l'industriel pour créer des stations de distribution et de production d'hydrogène destinées à la mobilité. Donc l'une en Auvergne-Rhône-Alpes s'appelle Impulsion, elle vient d'installer, on l'a installé 6 stations aujourd'hui, il y en a 3 ou 4 en perspective, et l'autre c'est Highport en Occitanie chez Carole Delga, où là nous avons créé une première station à Blagnac, à côté de l'aéroport. Une deuxième va se faire à Tarbes, et puis d'autres sont prévues dans le périmètre d'Occitanie. Donc il y a une dynamique de partenariat public-privé sur cette exigence de transition énergétique qui s'accélère, alors que même les grandes solutions d'État, vous en avez parlé, et le plan de relance en est un bon exemple, c'est facile de lancer des chiffres, c'est facile de lancer des concepts, on en parlait. Le passage à l'acte reste assez compliqué. Donc, je dirais, il faut savoir monter par escalier. C'est comme d'ailleurs la rénovation énergétique. Hein. C'est très ambitieux et le décret tertiaire permet d'accélérer les choses. Mais clairement, quand il va falloir dépenser des milliards et des milliards, il va falloir trouver des solutions, entre guillemets, qui mobilisent l'épargne privée, l'argent public et la capacité des uns et des autres à bien faire et pour l'État ou pour les collectivités locales à bien accompagner et bien contrôler aussi, parce que la confiance n'interdit pas le contrôle.
Alors, j'ai une question et on terminera là-dessus. Depuis 28 jours, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a, vous l'avez dit tout à l'heure, déstabilisé un peu tout le monde. Vous, j'imagine, chez Engie Solutions. Depuis 28 jours, qu'est-ce qui se passe chez Engie Solutions ?
Alors,
qu'est-ce qui se dit ?
C'est le groupe qui est impacté parce que nous faisons partie des acheteurs de gaz russe hein, pour alimenter la France et pour alimenter la capacité économique de la France, parce que beaucoup d'industriels utilisent énormément de gaz. Donc, il faut savoir effectivement s'adapter. Donc là, on ne peut pas couper des contrats qui étaient engagés. Hein, c'est difficile.
C'est des engagements de combien de temps ?
C'est des engagements de pluriannuels, souvent. Donc contractuellement, on ne peut pas comme ça, du jour au lendemain, tout casser.
Même cas de force majeure comme une guerre ?
Tout à fait. Tout à fait. Alors bon, clairement, les débats sont en cours. Et justement, on attend de l'Europe et de la France des consignes claires, parce qu'il va falloir trouver des alternatives ensemble pour éviter effectivement une rupture économique.
Donc là, vous attendez des consignes de notre gouvernement français et européen.
Je parlerai sous taux de réserve, c'est pas ma spécialité. Hein. Encore une fois, j'ai la chance d'être chez Engie Solutions, on cherche des solutions territoriales et françaises. Donc j'ai pas ce sujet à gérer dans mes compétences, mais clairement le groupe est très mobilisé depuis 28 jours pour essayer à la fois de... On a parlé aussi de Nord Stream 2, il y avait une canalisation qui venait de gaz, il y a pas de gaz dedans, et là heureusement quelque part, mais en tant qu'acteur économique, on est fortement impacté. Donc il faut trouver effectivement des voies et moyens pour aller chercher d'autres gaz ailleurs. L'Algérie redevient effectivement dans les prévisions. La Norvège a montré qu'elle aurait des difficultés à accélérer sa livraison de gaz. Donc l'autre solution, c'est la transition énergétique, c'est la rénovation thermique, enfin, c'est les diminutions des consommations et effectivement aller chercher partout où c'est possible et notamment dans les territoires ces énergies disponibles et locales.
Ça fait partie justement du plan annoncé par le gouvernement la semaine dernière, hein, le déploiement des énergies renouvelables. une augmentation de 40 à 60% de la prise en charge des frais de raccordement pour les installations de biogaz, par exemple.
Tout à fait.
Et justement, alors, vous, comment ça va se traduire pour Engie Solutions?
Ah ben là, c'est une très bonne nouvelle pour Engie, mais pas que, hein, puisque les opérateurs ont la liberté d'agir sur le terrain. Mais l'idée, effectivement, c'est d'accélérer ce passage et la production de biogaz. Hein, il y avait là aussi quelques débats.
Bah, ça stagnait un petit peu, en fait.
Bah, ça stagnait parce que le gaz russe en particulier, mais d'autres aussi, était dans une logique économique qui fait que le biogaz était d'une compétitivité plus délicate. Hein, donc, clairement, on peut produire du biogaz, mais si personne ne l'achète, à un moment, ça pose un vrai débat. Donc, c'est moins vrai, bien sûr, aujourd'hui.
Est-ce qu'il faut une catastrophe, en fait, pour...
Je dirais que la catastrophe, et on le voit, vous en parliez tout à l'heure, il y a un effet pouvoir d'achat qui très rapidement arrive, puisque le gaz augmente. Honnêtement, le gouvernement français n'y est pas pour grand chose. C'est la guerre.
Il faut rappeler que je crois que en Europe, le prix du gaz est 40% plus cher chez nos voisins. Pour les particuliers, 40%. Alors,
l'électricité.
L'électricité, pardon.
Ouais, c'est l'électricité. Mais l'électricité augmente aussi.
Et le gaz n'est pas régulé, pardon, pour les privés, pour les entrepreneurs qui, eux, payent plein pot, du coup, ces augmentations.
Et donc, on voit, les entreprises sont en difficulté aujourd'hui. Donc, l'État, par le plan de résilience dont vous parliez, va essayer de les accompagner de la meilleure des façons possibles. Mais ça, quelque part, la crise génère des opportunités. Ça va aussi permettre, et là, il faut réfléchir à l'accompagnement. Il y a aujourd'hui des outils de financement et français et européens qui sont le fonds chaleur, par exemple. Je parlais des réseaux de chaleur. C'est important, le fonds chaleur. Ça permet de passer à l'acte. Ça nous permet à nous mobiliser parce que, justement, on va créer des unités compétitives grâce à l'aide de l'État, grâce à l'aide des régions, pour que les citoyens et les entreprises puissent continuer de fonctionner dans une guerre économique qui restera demain celle qu'elle était hier. Il y a la guerre tout court, malheureusement, aujourd'hui, mais la guerre économique entre les blocs, hein, la Chine, les États-Unis et l'Europe, restera une réalité.
Après,
donc on peut pas rêver, quoi.
Voilà.
Il y a une accélération. Et une accélération, et qu'il faut effectivement permettre à tout le monde de passer le cap de la meilleure des façons. Mais quand les gens sortent parce que l'essence coûte plus cher, l'essence va coûter plus cher. Donc le gaz va coûter plus cher.
Ça, c'est une réalité.
Alors, on peut solliciter le budget de l'État, mais à un moment, là aussi, l'argent public, il a ses limites. C'est pas la poule aux œufs d'or.
C'est pas sans fin. Merci, l'émission touche à sa fin. Alors, avant de nous quitter, Antoine Brachet, vous vouliez nous parler, nous annoncer
les prochaines étapes,
quelque chose.
Non, juste tenir informé tout le monde. Dans ce projet Bright Mirror qu'on a abondamment évoqué, il se trouve que vous évoquiez au tout début de l'émission le fait qu'il y avait comme les présidentielles dans très peu de temps. Nous, on avait décidé d'enjamber allègrement les présidentielles 2022 pour faire avec les EcoStart un Bright Mirror sur les présidentielles 2027, quel en serait le visage idéal du pouvoir. L'idée sous-jacente, c'était évidemment de pas dire c'est pas bien ce qui se passe aujourd'hui, mais plutôt qu'est-ce qui pourrait créer de l'enthousiasme et qu'est-ce qui pourrait libérer les énergies. Ça s'est passé il y a quelques semaines et il y a un tiré à part des EcoStart qui paraît le 28 mars qui va mettre en évidence une ou deux histoires et puis huit concepts clés qui ont émergé de ces histoires, qu'on a pu collecter, les pépites que j'évoquais tout à l'heure et qu'on a pu mettre en valeur. Un à titre d'exemple pour vous donner envie peut-être d'aller voir ce que les citoyens ont raconté à ce sujet. Il a été question notamment de vote liquide dans une des histoires. Je cite, nous avons instauré le vote liquide. Les citoyens peuvent déléguer leur voix à un autre qu'ils estiment plus légitime ou plus compétent qu'eux et en qui ils ont confiance pour voter à un scrutin. Vous voyez tout ce qui se cache potentiellement derrière, de délégation possible. Est-ce que, je ne suis expert évidemment pas de tout, est-ce que dans certaines circonstances je peux remettre ma voix à quelqu'un d'autre? Ça ouvre des perspectives qu'on appelle en design fiction des artefacts qui permettent de construire pas mal d'univers. On y réfléchira encore à l'avenir avec les EcoStart, voilà.
Eh bien, c'est noté, donc dans 5 jours.
Pardon, le 28 mars dans les Échos.
C'est ça, et d'ailleurs 2027 me paraît tellement loin.
Mais ça va se rapprocher très vite, puisqu'on construit dès aujourd'hui.
Ouais. Super, bon, on était ravis en tout cas de vous recevoir dans cette émission, le grand hebdo de Radio Territoria. Antoine Brachet, directeur associé de Blue Neuve, Pierre Guillard, directeur des relations institutionnelles chez Engie Solutions. Merci Paul Meyer.
Merci beaucoup Bérénice, ça a été un plaisir. Je veux bien sûr remercier nos formidables équipes techniques, Baptiste, oui, Théo, Jason et toute l'équipe.
Je veux David.
Je veux aussi remercier Osons Comprendre et Ludo Torbay pour leur travail de données, y compris le Shift Project dont on a pu s'inspirer de pas mal d'éléments. Et puis quant à nous, on va vous donner rendez-vous très bientôt, la semaine prochaine, pour un prochain numéro
du Grand Hebdo.
Le Grand Hebdo, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.